La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Et c'était le 93.9 FM, Radio Campus, la matinale. Le prix du silence quand les trafiquants marseillais terrifient la résistance. Le 13 novembre 2025, Marseille a été secouée par un assassinat dont la portée dépasse le simple drame familial. Mehdi Kessassi, 20 ans, a été abattu en plein jour par des hommes à moto. Un modus operandi froidement professionnel et clairement prémédité. Ce n'était pas un règlement de compte ordinaire. Selon le procureur, il s'agit très probablement d'un crime d'avertissement visant non pas lui, mais son frère aîné, Amine. Un assassinat comme message. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ne s'y trompe pas. Ce meurtre, d'après lui, marque un point de bascule dans le narcotrafic marseillais. L'enquête a été confiée à la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, Junalco, qui signe clair que l'État perçoit la gravité d'une attaque qui dépasse le tragique familial. Car Amine Kessassi n'est pas un militant comme les autres. À seulement 22 ans, il s'est imposé comme une voix forte dans la lutte contre le narco-banditisme à Marseille. Il a fondé l'association Conscience qui soutient les familles victimes des violences liées au trafic de drogue et il a déjà payé le prix du sang. Un autre de ses frères, Brahim, a été assassiné en 2020, son corps retrouvé dans une voiture incendiée. La détermination d'un frère, malgré la douleur, Amine refuse de se taire. Dans une tribune publiée dans Le Monde, il affirme « Je dirai et répéterai que mon frère Mehdi est mort pour rien. Je dirai la violence du narcotrafic et il va plus loin. Face à un tel ennemi, l'État doit prendre la mesure de ce qu'il se passe et comprendre qu'une lutte à mort est engagée. Cet appel à la révolte n'est pas un cri de vengeance, mais un appel à la responsabilité collective. Ne pas rester silencieux face à ceux qui veulent mater toute résistance. L'État et la République, face à leurs propres défis à travers le meurtre de Mehdi, ce sont les trafiquants qui lancent un ultimatum. Programme de cette matinale réalisée par David, Abel nous sortira une super chronique humoristique. On aura un journal présenté par Clotilde. Nous recevrons Amy et Lisa, deux artistes qui sortent leur nouvelle EP autour d'un Zoom mené par Hugo. Mais tout de suite, nous parlons de la crise politique que traverse la France à travers le livre Constitution de Eugénie Muriot qui est l'invité de Marine.
La matinale de 19h, chercheuse aussi, et vous êtes aussi autrice de La dictature, une antithèse de la démocratie, paru en 2019, et Constitution, publié récemment en mai 2025. Donc merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Ben, j'ai une première question pour vous, c'est une question un peu de base, on va commencer là-dessus. C'est qu'est-ce que le métier de constitutionnaliste? Ça peut paraître un peu flou pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus?
Le métier, c'est chercheur ou enseignante-chercheuse, c'est-à-dire professeur, mais à l'université, donc il y a deux activités. La première, c'est l'enseignement et la deuxième, c'est la recherche. Et en fait, les deux activités se nourrissent l'une l'autre. C'est-à-dire que quand on enseigne, en fait, on enseigne des connaissances qu'on est en même temps en train de produire. Et donc, en fait, les étudiants participent de nos recherches. Donc, c'est vraiment un métier formidable. Pour moi, c'est vraiment le meilleur métier. Et ensuite, en fonction des spécialités, on va se donner le titre de constitutionnaliste. Ça veut dire que ma spécialité en tant qu'enseignante chercheuse, c'est la constitution, le droit constitutionnel. C'est une branche du droit public qui s'intéresse à la Constitution et aux constitutions dans le monde.
D'accord, ben merci pour ce petit point. Dans les premières lignes de votre livre Constitution, on peut lire que vous dites que votre profession est très sollicitée en ce moment. Pourquoi cela? Est-ce que c'est lié à la situation politique du pays?
Oui, alors le droit constitutionnel intéresse de plus en plus parce qu'on s'est rendu compte à la faveur de la séquence qui a été ouverte avec la dissolution du 9 juin 2024, l'importance de nos institutions. Et je pense que pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes, ça a été le moment d'une prise de conscience que nos institutions n'étaient pas si démocratiques que cela finalement, puisque à l'issue des élections, c'est le NFP qui a remporté les élections et le président de la République a décidé premièrement de ne pas nommer de gouvernement, c'est-à-dire de rester avec avec un gouvernement démissionnaire pendant tout l'été. Et ensuite, il a décidé de nommer un gouvernement issu de la formation politique, l'une des formations politiques les plus minoritaires au Parlement. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons été très sollicités. On nous demande notamment, est-ce que c'est constitutionnel ? Et souvent, on nous demande bien également, est-ce que c'est démocratique ce que le président de la République a fait ? Et ça permet de soulever deux points très importants. Le premier, c'est que oui, c'est constitutionnel, parce que dans la Constitution, l'article 8 de notre Constitution dispose que le président de la République nomme le Premier ministre. En fait, il n'y a pas de contrainte qui pèse sur le président de la République quand il nomme le Premier ministre. C'est un pouvoir propre, un pouvoir discrétionnaire, sans besoin d'avoir la signature d'une autre autorité politique. Ça lui permet donc de nommer en effet qui il veut. Mais justement, ça nous amène à la deuxième question qui est, mais est-ce que c'est démocratique de procéder ainsi ? Et évidemment, on arrive à la conclusion logique, est-ce que notre Constitution est démocratique puisqu'elle autorise des pratiques qui ne sont pas démocratiques ?
Ben justement, on va revenir sur la question de qu'est-ce qui est constitutionnel ou pas et sur les pouvoirs du président de la République. Peut-être d'abord, on va revenir sur les caractères de notre 5e République. Déjà, comment la 5e République a été fondée ? Sur quoi elle se base ? Sur quels principes, peut-être ?
Alors, en 1958, le général de Gaulle, assisté de Michel Debré, rédige cette constitution de la 5e République. Donc, elle a été rédigée par vraiment une poignée d'hommes en 1958 à la faveur de la crise algérienne. Et à l'époque, on était en état d'urgence. L'état d'urgence avait été déclaré à la suite des événements d'Algérie. On appelait ça les événements d'Algérie à l'époque. Le général de Gaulle avait promis aux parlementaires que cette constitution serait parlementaire, qu'elle serait démocratique, et c'est le projet qu'il a présenté aux parlementaires. Donc il a présenté d'abord au Conseil d'État, puis aux parlementaires. Ensuite, il y a eu un référendum et donc la population française a adopté ce texte. Mais ce texte a beaucoup changé depuis 1958. Au départ, le président de la République devait être un arbitre au-dessus des partis politiques et c'était le Premier ministre. En tout cas, c'est ce que l'on avait pu déduire du texte de la Constitution dans son état de 58. C'est le Premier ministre qui était censé avoir le pouvoir exécutif. D'ailleurs, c'est encore dans la Constitution. C'est le Premier ministre qui détermine la politique de la nation. Néanmoins, à partir de 1962, le général de Gaulle a changé la Constitution pour introduire l'élection directe du président au suffrage universel par les Français. Ça a modifié complètement l'équilibre des pouvoirs, ce qui fait que désormais, notre régime qui était parlementaire, c'est-à-dire qui reposait sur un parlement qui pouvait censurer le Premier ministre, eh bien, ce régime-là, il a évolué vers autre chose. C'est ce qu'on appelle le régime semi-présidentiel. C'est-à-dire qu'il y a deux autorités concurrentes. Un président qui est élu directement, une assemblée qui est élue directement. Un premier ministre au milieu qui ne sert qu'à être une sorte de fusible, en fait, à protéger le président de l'assemblée. L'assemblée ne peut pas atteindre le président, alors que le président peut dissoudre l'assemblée. Donc ça inscrit un dysfonctionnement majeur, un déséquilibre majeur. Le modèle historique, c'est la République de Weimar de 1919. Donc cette République qui s'est terminé en 1933 avec l'accession au pouvoir des nazis et la suspension de la Constitution par un décret d'état d'urgence qui a duré 12 ans, c'était le régime nazi. Et puis sinon, c'est un régime qui a été beaucoup plébiscité dans les anciennes colonies françaises, notamment en Afrique, et puis sinon dans le monde post-soviétique, parce que justement, elle était très autoritaire, en fait. Et je pense que c'est vraiment ce dont les Français et les Françaises se rendent compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette 5e République, qu'on a toujours présentée comme étant un modèle que la France offrait gracieusement au peuple du monde libre, en réalité, cette constitution, elle est taillée sur mesure pour le général de Gaulle, qui était un militaire, qui est venu au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, qui était un homme du 19e siècle et qui n'avait pas du tout pour intention de démocratiser ce pays. Au contraire, l'objectif était quand même de le rendre le plus gouvernable possible. Voilà.
Donc finalement, cette constitution serait peut-être un peu obsolète. Depuis 1958, la France a changé, la volonté des citoyens et des citoyennes a peut-être évolué aussi. Est-ce qu'il faudrait peut-être changer ? Est-ce qu'on peut modifier le texte de la Constitution et quelles sont les règles pour modifier la Constitution ?
Justement, cette Constitution, elle est très rigide. La rigidité en droit constitutionnel, ça signifie que c'est un texte qui est très difficile à modifier, qui nécessite des procédures particulièrement contraignantes. Nous avons un article, c'est l'article 89. Il faut procéder en deux temps. Donc il faut non seulement un vote des deux assemblées, mais ensuite un vote des députés rassemblés en congrès aux 3/5 et ou un référendum national. Donc c'est très compliqué a changé. Il faut toujours le Sénat. Donc le Sénat, on sait, c'est une chambre très conservatrice. Donc en fait, les révisions constitutionnelles qui vont pouvoir être adoptées vont être uniquement les révisions constitutionnelles plutôt de type conservatrice, c'est-à-dire qui vont pouvoir recueillir l'assentiment du Sénat. C'est vraiment problématique dans la mesure où cette constitution, elle a été écrite par des hommes d'un autre temps. En effet, je l'ai déjà mentionné. D'ailleurs, dans le livre, je donne un certain nombre d'exemples qui montrent bien dans quel état d'esprit étaient ces rédacteurs en matière de mœurs. On est vraiment dans une autre époque, dans une très très vieille France, et la Constitution, elle porte les marques de cet autre temps. Donc en effet, il semble nécessaire et urgent de la changer, et surtout de permettre dans le futur à ce que l'on puisse la réviser très régulièrement. On pense aux générations, aux jeunes générations, et je m'inclus dedans. Il faut avoir son mot à dire sur la Constitution également.
Et comment la jeune génération peut avoir son mot à dire sur une évolution de la Constitution? Est-ce qu'elle a un moyen de faire entendre sa voix?
Alors, par exemple, sur le référendum, il faudrait déjà baisser l'âge du vote à 16 ans. On peut même descendre plus bas, pourquoi pas. En tout cas, il faudrait y réfléchir. Il y a toute une question aussi sur la justice entre les générations. Comment on répartit les rapports entre les générations? On parle souvent de la possibilité d'avoir un parlement des jeunes. Enfin, il y a toute une série de nouvelles catégories que l'on peut, enfin, d'innovations en tout cas, qu'on pourrait mettre en œuvre pour cette Constitution. Mais en l'état actuel de la Constitution, non, la seule participation des citoyens à la révision de cette Constitution, c'est par le référendum après l'approbation du Sénat, autant dire sur des révisions qui sont très conservatrices. Et en plus, le référendum est facultatif. C'est la raison pour laquelle dans l'histoire de notre Constitution, nous avons eu 25 révisions constitutionnelles, seulement une est passée par le référendum.
D'accord. Bon, on va revenir sur l'avenir et sur l'après, comment on pourrait l'imaginer. D'abord, on va peut-être revenir sur la situation actuelle. Donc, il y a eu la crise des Gilets jaunes, des dissolutions, de la réforme des retraites, des 49-3, la France sans gouvernement. On peut pas dire que l'état actuel de la Ve République est stable. Finalement, c'était un peu comment était caractérisée la Ve République pour sa stabilité par rapport à la Troisième et à la Quatrième République. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec la Ve République, quels sont les problèmes que vous relevez?
Alors, il y a tout le caractère antidémocratique, ça, nous l'avons vu, c'est ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire la manière dont sont organisés les rapports entre les pouvoirs, l'ensemble du pouvoir législatif est sous la tutelle de l'exécutif. Et les institutions ont été pensées, justement, pour que le Parlement ait le moindre rôle possible. Donc, l'idée, c'était en effet de réagir aux excès, en tout cas supposés, de la Troisième et de la Quatrième, où le Parlement avait trop de pouvoir. Donc, cette Constitution, elle permet à l'exécutif, en effet, de gouverner sans l'Assemblée. Sans l'Assemblée qui représente tout de même, dans une certaine mesure, le peuple, même si on pourrait évidemment critiquer aussi cette représentation-là. Mais en tout cas, on l'a vu avec le 49 alinéa 3, ça permet de faire adopter des textes sans aucun vote, c'est-à-dire il n'y a même pas de vote. On ne peut même pas dire que le Parlement vote la loi quand il y a un 49 alinéa 3, alors que c'est inscrit dans la Constitution. Il y a toute une série d'autres mécanismes, les votes bloqués, les procédures accélérées, etc., qui permettent au gouvernement de voter sans l'Assemblée. Ensuite, il y a plusieurs éléments qui, à mon sens, sont vraiment problématiques. Le premier, c'est la question du budget, c'est-à-dire qu'un budget, c'est là où on va penser la question des impôts, par exemple. Donc, il y a toute une problématique du consentement à l'impôt. Si on fait adopter un budget par 49 alinéa 3, c'est-à-dire que le principe du consentement populaire à l'impôt, il est remis en cause. Sachant que dans notre Constitution, il n'y a pas que l'article 49 alinéa 3 pour faire adopter un budget contre le Parlement. Il y a aussi les ordonnances. C'est-à-dire que si le Parlement ne vote pas dans un délai précis, alors le gouvernement peut promulguer par ordonnance. Et là, c'est vraiment le flou parce qu'on ne sait pas quel sera le régime juridique de ce budget par ordonnance. Donc, toutes ces questions-là qui sont très très importantes. La deuxième, c'est sur la guerre. Nous sommes dans une situation dans laquelle le président de la République peut nous emmener vers la guerre sans qu'il n'y ait de garde-fous. C'est-à-dire que dans notre Constitution, il n'est pas prévu de moyens pour les parlementaires ni même pour le peuple de s'opposer à une décision d'envoi des forces françaises à l'étranger. Ce n'est qu'au bout de 4 mois que le Parlement peut se prononcer. Donc il y a au moins ces deux gros problèmes en matière de, un, consentement à l'impôt, deuxièmement, en matière de guerre, et d'ailleurs c'est évidemment lié, parce que le budget, là on le voit, c'est un budget qui augmente les dépenses militaires au détriment des dépenses sociales, eh bien cette, notre Constitution, elle organise justement tout pour que l'exécutif puisse gouverner contre l'avis du peuple, et même en matière de guerre et d'impôt. Alors, cette faillite ou cette faille de notre Constitution, elle était censée être compensée par son caractère de gouvernabilité, justement, comme vous l'avez dit, et son caractère stable. Et donc, c'était l'argument pour dire oui, c'est antidémocratique, mais au moins c'est stable, on peut gouverner, on peut faire adopter des budgets, etc. Mais
est-ce qu'on peut pas avoir les deux, finalement? Est-ce qu'on pourrait penser à un régime politique qui a les deux, la stabilité et la démocratie?
Alors, je vais juste finir. Justement, oui, on voit que ce n'est pas le cas, il n'y a pas la stabilité gouvernementale. Donc, est-ce qu'on peut penser à un système où il y aurait la stabilité et le caractère démocratique? Alors ça, c'est toute une question qui, selon moi, doit nous amener beaucoup plus loin que la réflexion sur faut-il un régime parlementaire ou un régime présidentiel, et repenser un peu plus en profondeur le fonctionnement de nos institutions. Parce que c'est vrai que si on regarde dans les régimes les plus stables, que ce soit en Allemagne ou au Royaume-Uni, le caractère démocratique, il est là aussi très relatif. Par exemple, quand on a une grande coalition, finalement, la représentation des intérêts et le rapport entre les élections et la politique qui est menée est très distendu. Et c'est la même chose au Royaume-Uni. Donc, l'ensemble peut-être de ce modèle de la démocratie représentative est à repenser.
Et pour revenir sur l'impact de cette République sur la démocratie, est-ce qu'on est toujours dans un système démocratique en France, selon vous ?
Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. C'était l'objet du livre « Dictature. La dictature est-elle une antithèse de la démocratie ? 20 idées reçues sur les régimes autoritaires ». On a souvent établi cette distinction entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques sur le fondement de deux choses. Un, la violence vis-à-vis du droit. Donc le régime autoritaire serait violent alors que le régime démocratique serait fondé sur du droit. Et deuxièmement, les élections seraient truquées dans un pays et dans l'autre, non. Et en fait, ce que je montre bien, c'est que se dessine une grande convergence entre les régimes autoritaires et les régimes dits démocratiques à la faveur de l'illibéralisation qui grandit dans les régimes démocratiques, dont la France est vraiment l'un des emblèmes. C'est-à-dire qu'en France, nous avons état d'urgence après état d'urgence, un détricotage de notre état de droit. On a de plus en plus de violations de la Constitution. Hein. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron lorsqu'il a dissous l'Assemblée nationale en passant par l'article 12. Je pourrais parler d'autres exemples un peu plus techniques, donc qui vont peut-être perdre les auditeurs, donc je m'arrêterai là, mais je les invite à lire le livre. Et sinon, vous avez dans le même temps des régimes autoritaires qui repose de plus en plus sur des constitutions, des élections, des catalogues des droits, la justice constitutionnelle. Donc on a une convergence dans une zone grise, celle de la démocratie illibérale, et on le voit très bien en France aujourd'hui, nous sommes, et je l'ai écrit déjà dans une tribune à Libération il y a fort longtemps, dans une démocratie illibérale, c'est-à-dire une démocratie qui se légitime via l'élection, mais qui ensuite ne respecte pas les règles qu'elle s'est elle-même fixées.
Et est-ce que dans le monde, on a un bon élève en termes de démocratie sur lesquels on pourrait s'inspirer en France, par exemple?
Je pense à la Suisse, par exemple, où on sort de cette idée de la démocratie représentative. On a un exécutif qui est collégial. Il y a des référendums d'initiative citoyenne. Il y a des votations et il y a une véritable participation du peuple à la fabrique de la loi. Et finalement, l'exécutif n'a pas cette dimension de chef charismatique. Personne ne connaît finalement les membres du gouvernement suisse, c'est tout à fait anecdotique, parce que c'est le peuple qui participe via sa participation directe à l'élaboration des lois. Donc selon moi, c'est plutôt vers ce modèle-là qu'il faudrait tendre, plutôt que de regarder toujours cette opposition parlementaire-présidentielle.
Donc finalement, un régime moins présidentialiste, parce que pour l'instant, selon vous, le régime politique français est trop présidentialiste. Emmanuel Macron aurait trop de pouvoir. Ou en tout cas, il en aurait trop.
Je pense qu'on est tout à fait d'accord sur ce point. Les pouvoirs propres, donc c'est-à-dire les pouvoirs que le président de la République a dans notre Constitution, qui ne sont pas contresignés, qu'il exerce seul, sont une anomalie dans le monde démocratique. Alors même que les autres démocraties sont très très imparfaites, les pouvoirs propres du président, le fait qu'il puisse tout seul, s'il veut, s'octroyer les pleins pouvoirs pour agir dans n'importe quel domaine législatif, exécutif, judiciaire, et décider lui-même s'il doit mettre fin à l'utilisation de ses pleins pouvoirs, noire, c'est une anomalie, ça n'existe nulle part ailleurs, même sous la République de Weimar. Cet article 48, donc, qui était une prérogative présidentielle de plein pouvoir, était contresigné par le Premier ministre. Donc même à Weimar, cet article qui a fait dégénérer la République de Weimar dans le nazisme, elle était beaucoup plus encadrée que ne l'est notre article 16 aujourd'hui sous la Ve République.
Et plus concrètement, cette instabilité de notre Ve République, quel impact ça a sur le quotidien des citoyens et citoyennes français? Est-ce qu'on en a des, on peut les situer, ces impacts?
Alors, il faudrait beaucoup plus d'études sur la question de l'impact des lois et de l'impact... Donc, il y a toute une tradition de recherche qui existe beaucoup aux États-Unis qui fait ce travail. En France, nous n'avons pas développé cette tradition de recherche de ce qu'on appelle l'impact économique des lois. Mais il faudrait s'engager dans cette voie. On voit très bien que la réforme des retraites, par exemple, ou l'ensemble de la politique sociale est directement liée à nos institutions, notamment parce que elle peut en effet être adoptée par article 49 alinéa 3 contre l'avis de la majorité de la population. On a beaucoup d'autres exemples de ce type, donc réforme des retraites, toutes les réformes politiques et sociales. On a aussi le Conseil constitutionnel qui a un rôle très très antisocial dans notre constitution, qui va bloquer un certain nombre de réformes progressistes qui pourraient améliorer le sort des Français. Récemment, on parle de la taxe Zucman, mais en fait, il y a eu plein de volonté de mettre en place des taxes pour taxer les plus hauts patrimoines et les plus hauts revenus qui ont été soit censurés, soit qui n'ont pas pu être proposés du fait de nos institutions. Et je prendrai juste un exemple, la taxe de François Hollande à 75% sur la plus haute tranche d'impôt sur le revenu a été censurée par le Conseil constitutionnel au nom de l'égalité devant l'impôt. Donc on a nos institutions ont une incidence économique et sociale sur la vie des Français. Et sans parler des étrangers, évidemment, qui ont des conditions de plus en plus déplorables et qui viennent directement de ce que nos institutions permettent.
Et juste dernière petite question rapidement, est-ce que du coup la solution c'est une sixième République ou pas du tout ?
Alors, plus intéressant que de proposer une sixième république toute faite, c'est le processus constituant.
D'accord.
Qui va permettre premièrement de mettre sur la table toute une série d'idées, de relancer un grand moment fondateur, comme non pas un grand moment fondateur où on va tous aller voter pour une élection présidentielle pour changer de projet et en fait avoir une république parlementaire plus. Non, l'idée c'est un grand moment type les Lumières. À la fin du 18e siècle, on a des clubs partout, des gens qui réfléchissent partout à rédiger une constitution, tout le monde se met à y penser. C'est pareil pendant la Commune de Paris, mais même Rimbaud avait écrit son projet de constitution.
Une réflexion donc, globale, en fait, il faudrait...
Les artistes, ouais. Les professeurs, les citoyens, les ingénieurs, tout le monde peut réfléchir à sa constitution. Et si on met tout ça en commun, plutôt que de la confier à un homme ou au personnel politique, si on met tout ça en commun, c'est ce bouillonnement qui va créer la possibilité d'imaginer et de faire quelque chose de meilleur. L'idée, c'est... On peut faire mieux. Soyons optimistes. La révolution est impossible jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable, c'est Rosa Luxembourg. Donc, nous y sommes,
merci.
A priori.
Merci Eugénie Mériot pour ces mots.
Merci beaucoup Marine pour cet entretien. Merci beaucoup Eugénie Mériot. Vous êtes autrice, vous êtes constitutionnaliste. Maintenant, c'est l'heure d'un live musical de Eugénie Mériot. Je paniquais.
Je peux dire quelques mots sur...
Vous êtes toujours en direct et on écoute Eugénie Mériot à la guitare.
Je suis allée chercher ma guitare et je voulais juste dire quelques mots sur cette chanson, qui est une chanson que j'ai écrite sur et pendant les événements de Sainte-Soline. On a tous vu récemment les images de Sainte-Soline. Donc on a aussi des institutions qui permettent des grosses dérives en matière de maintien de l'ordre, qui viennent de... l'organisation très verticale de nos institutions. Et cette chanson s'appelle « Bientôt la fin du monde ». Bientôt la fin du monde, déjà l'état d'urgence. Bientôt la bête immonde, déjà l'odeur de l'essence. Bientôt la fin du monde, déjà l'état de violence. C'est Paris sous les bonbons, faites la fin de l'abondance. Bientôt la fin du monde, déjà les voitures crament.
Quand l'air est lourd et sombre, il reste quoi? Les flammes. Bientôt la fin du monde, mais d'abord la fin du mois. Quand la route est trop longue, il reste quoi? L'effroi. Bientôt la fin du monde, déjà un grain de sable. Quand se grippe la map monde, il reste quoi? Une simple fable. Bientôt la fin du monde, encore quelques secondes. Quand le ciel sera éteint, il restera quoi, putain? Rien. La rue qui gronde. Face au grand coup d'état, il reste quoi? Bientôt la fin du monde. Déjà la foule se fait peuple, se fait fronde. Face à l'immense pillage, il reste quoi? Bientôt la fin du monde. Encore quelques secondes. Quand le ciel sera éteint, il restera quoi, putain? L'insurrection qui vient.
Bravo, bravo Génie Mérieux pour cette belle interprétation.
L'étrangère.
L'étrangère.
Et vous pouvez me retrouver en concert à la Bellevilloise le 7 décembre.
Eh bien, note cette date. Merci beaucoup pour votre présence et cette belle interprétation. Tout de suite, le flash info de Clotilde. Bonjour Clotilde.
Bonjour Rania. La première actualité du jour en France est la suppression de la suspension de la réforme des retraites. En cause, l'alliance entre les groupes centristes et le Parti Les Républicains. Sa suppression est considérée par la droite comme un chantier prioritaire des premiers travaux sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale entamé ce mercredi 19 novembre. Pourtant, un accord avait été trouvé entre le gouvernement Le Cornu II et le Parti Socialiste pour éviter une censure. Ce décalage devait permettre aux salariés nés en 1964 et au premier trimestre 1965 de partir quelques mois plus tôt que prévu en retraite et avait pour vocation de s'étendre aux carrières longues. De son côté, Gérard Larcher, président du Sénat, avait déjà annoncé vouloir supprimer cette réforme. Néanmoins, même si le Sénat a pour volonté d'enterrer cette réforme, nous ne sommes qu'au début de la discussion et le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale. À l'international, cette fois-ci, c'est l'environnement qui retient l'attention avec la déforestation du Cerrado par l'agro-industrie. En effet, cette région de savane située en Amérique latine, dont un quart se trouve sur le territoire brésilien, joue un rôle important dans l'absorption du gaz à effet de serre. Cette savane se constitue d'une très grande biodiversité et de grandes réserves d'eau. La déforestation a permis la conversion de grandes étendues de champs en monoculture. Selon les chercheuses Catherine Aubertin et Florence Piton, un tiers du soja cultivé et exporté en France pour nourrir le bétail provient du Cerrado. Reste à savoir si au cœur de la COP30 de Belém, le Cerrado deviendra enfin un véritable sujet politique porté au même niveau de protection que l'Amazonie. Et pour terminer sur une note plus culturelle, Paris ouvre de nouveau les portes du Mausolée, ancien supermarché transformé en sanctuaire de la culture underground du 22 novembre au 30 décembre 2025. Ce projet a été initié par les street artistes Lex Owat en 2010 et a rassemblé une trentaine d'artistes autour de fresques et d'installations éphémères. Un événement unique qui célèbre le graffiti français et l'exploration urbaine.
Stereo driver, just come and see.
Ensuite, le Zoom avec Hugo. Aujourd'hui, on accueille Amy et Lisa. Hugo, c'est à toi.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on est avec deux sœurs jumelles qui font de la musique depuis leurs 6 ans. Bonsoir, Amy et Lisa.
Oui,
Amy
et Lisa,
c'est comme vous voulez le dire. Ah. Alors, on a la lumière qui vient de disparaître, mais elle revient. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler de votre nouveau single, Forget P. Alors, de quoi il parle ce single ?
Eh ben en fait, c'est une peine de cœur que j'ai eue. Donc il y a un garçon que j'aimais bien quand j'étais au lycée. Et le truc, c'est que j'ai eu pas mal de mal à l'oublier. Surtout quand je l'ai revu à une soirée. Et j'espérais en fait qu'il soit devenu pas hyper laid, pas sympa, pas drôle. Et en fait, je sais pas si vous connaissez ce sentiment-là, mais de revoir quelqu'un et on se dit qu'on a un peu... On se sent un petit peu minable et tout. Et on est en mode, je veux revoir quelqu'un que j'aimais bien. Et en fait, la personne, elle t'a complètement oublié, mais pas toi. Et du coup, ça parle un peu de ça, sur le fait de ne pas vraiment réussir à oublier quelqu'un qu'on aime bien.
Mais est-ce que écrire une musique sur lui, ça aide à oublier ?
Bah, en soi, ça m'a quand même aidée parce que justement, je me sentais pas hyper bien. Justement, parce que j'arrivais pas vraiment à écrire des musiques à ce moment-là. Donc, du coup, bah, ça m'a aidée à écrire une chanson. Donc, ça m'a un peu aidée à me dire que j'étais quand même. Bah, reprendre un peu confiance en toi. Voilà, c'est ça.
Et c'est un peu de quoi parle votre musique, parce que votre musique, elle parle un peu du chaos de la vie adulte, finalement. Mm-hmm. Vous avez deux voix assez fortes et une musique que moi, en tout cas, j'ai envie d'écouter au coin du feu, limite, en post-rupture. Est-ce que c'est aussi ça, l'idée de travailler une musique assez mélancolique qui provoque des émotions, un peu qui réchauffe le cœur, comme un duvet ou une bouillotte?
Oui, en fait, nous on aime bien quand notre musique elle parle aux gens et qu'elle... Là, en fait, c'est une musique qui permet aussi de se dire que c'est pas très grave s'il y a quelqu'un qui nous plaisait et qu'on a revu et que finalement on se sentait pas forcément bien à ce moment-là. En fait, on arrive à faire des belles choses, des musiques sympas, des musiques entraînantes, malgré les trucs un peu pourris qui nous arrivent. Et en fait, c'est une manière de sublimer les trucs un peu nuls de la vie.
C'est ça. Parce que la musique en soi, elle parle d'un truc pas hyper cool qui m'est arrivé.
Oui.
Mais en soi, bah maintenant, le souvenir que j'en garde, c'est juste que ça fait une chanson sympathique. Et même la chanson, elle est assez entraînante, etc. Et donc, du coup... Enfin, ça reste pas sur le côté un peu déprimant.
Non, justement, c'est plus pop. C'est,
bah ouais, c'est
ça. Il y a un côté un peu, on passe au-dessus.
C'est ça. Il y a un peu un côté vengeance, un petit peu en mode, ok, c'est comme ça. Et ben, regarde.
Mais c'est un peu votre discographie aussi de ce côté un peu. Ben, la vie, elle est un peu triste, mais regarde, nous, c'est fun et vous le chantez.
Est-ce
que
ça.
C'est un peu ça l'émotion que vous les procurez.
Ouais, bah c'est un peu ça. Même on a justement fait un clip pour le single.
Oui, je l'ai vu, il est trop beau.
Ah bah c'est gentil, merci. Et du coup, bah en fait dans le clip, on prenait un gars qui est censé représenter du coup P. On le prenait un peu à partie et il se faisait un peu malmener dans notre clip et c'était un peu en mode vengeance, tout ça. On s'amusait en fait avec Lisa.
Mais il fait la tête tout le long du clip, non ça.
Bah ouais, bah il est gêné.
Et vous êtes
c'est ça.
De côté. Allez voir ce clip qui est super. Et vous dites d'ailleurs dans la chanson I ask for a few more days. Je demande quelques jours de plus. Quelques jours de plus, pourquoi?
Alors, quelques jours de plus, pourquoi? Mais en fait, c'est parce que l'histoire de base, c'est que j'ai réussi en fait à pêcher mon crush quand j'étais au lycée.
Bravo.
J'étais super contente. J'étais en mode waouh. Vraiment, j'étais en mode c'est le BG du lycée. J'étais contente. Et en fait, le lendemain, il m'a envoyé un message. Il m'a dit ouais, en fait. Bon, viens, on parle lundi, et voilà. Et bon, lundi, il m'a dit ciao. Du coup, peut-être plus de jours, je demandais.
Ouais. Quelques jours en plus pour profiter un peu de ce sentiment d'avoir pécho son crush, et en fait, voilà.
Un jour.
Avant de se rendre compte que c'est finito, quoi.
Un jour de victoire.
Je comprends. Et vous chantez en anglais, donc pourquoi ce choix de langue ?
Et ben nous, toute la musique qu'on écoute, elle est en anglais. Et du coup, de base, on écrivait en français. On se disait, c'est bizarre, ça ressemble pas à ce qu'on écoute du tout. Il y a un truc qui clochait. Et puis, à un moment donné, on a écrit une musique en anglais. Et on s'est dit, ah bah c'est marrant parce que là, ça marche. Là, on se reconnaît dedans. Et puis avec Amy, on est un peu des fans des États-Unis. On est toujours dans le rêve américain, dans le rêve Disney Channel. On a vraiment grandi avec ça. Et du coup, pour nous, les États-Unis, c'est la musique, c'est poursuivre ses rêves. On adore. On va dire qu'on adore ce pays version Disney Channel.
Oui, bien sûr, pas
voilà.
Aujourd'hui un peu moins peut-être.
J'adore les paysages, on va dire.
Je comprends très bien. Et oui, c'est vrai que vous avez une musique assez particulière. Est-ce que justement, ce rêve américain, il vous a beaucoup influencé dans la manière de chanter ? Et est-ce que chanter en anglais, peut-être que les émotions, vous arrivez à les dire plus facilement en anglais qu'en français ?
Bah, c'est surtout que ça rend mieux. Quand on écrit des trucs en anglais, une fois justement, je montrais à un de mes amis, je lui lisais les paroles de Forget P en français, et bah c'est beaucoup moins stylé. C'est beaucoup moins stylé, même le dernier couplet. Il fera de toi sa reine, il ne fera pas de toi sa reine. C'est quoi déjà, Lisa?
C'était
dans Be Too Kind, Everything is the King.
Ouais, donc, s'il pense que c'est un roi, quoi, lui, il va.
Voilà, ne sois pas trop gentil, sinon il pensera que c'est un roi, mais il ne fera pas de toi sa reine. Bon, bah, ça rend moins stylé. Oui. En français, je trouve.
Oui,
je trouve qu'en anglais, ça.
Il y a un côté plus stylé.
Voilà,
plus,
non, en anglais, mais... bon, c'est un peu plus mystérieux.
Oh, d'accord. ça fait combien de temps que vous tournez sur scène?
En vrai, depuis qu'on est assez jeune, je dirais depuis qu'on a 12 ans, on fait des petites dates. Mais là, c'est depuis 2 ans que vraiment on fait des beaucoup plus grosses scènes, tout ça.
Mmh. Vous avez commencé sur scène à 6 ans, 7 ans?
Ah non, à 6 ans, on était nuls.
Mais à 6 ans, vous commencez à faire de la musique?
Ouais, on a commencé à jouer ensemble. Enfin, on a commencé. Notre père nous a appris à jouer de la guitare à ce moment-là. On pataugeait un petit peu. Et on a vraiment joué ensemble nos premiers morceaux quand on avait à peu près 10 ans.
Et après, il y a eu des cours de chant où ça a été.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et vous faites de la guitare toutes les deux?
Ouais, ouais.
D'autres instruments aussi ou...
Moi, je me suis mis un petit peu au clavier, un petit peu au banjo. Par un petit peu, je veux dire que je l'en ai acheté un.
Le banjo, suite justement à ce rêve américain aussi.
Ah bah ouais. Carrément.
Et la country, est-ce que vous pensez en faire un jour?
Je pense que c'est un peu le rêve de Lisa. Elle, quand elle était petite, elle avait un harmonica.
Oh.
Et elle avait le porte-harmonica en fait.
Parce que je faisais de la guitare en même temps.
Pour avoir le full charisme. Mais non, en vrai, moi la country, je suis pas très chaud.
Moi j'aime bien la country. Je pense qu'Amy, il y aura forcément un morceau où ça sera un peu country.
Oui, il faudrait clipper un de son service là-bas aux USA avec
Moi j'adore. Ah ouais. J'adore. Et moi du coup, je fais du ukulélé aussi.
Ah, ouais.
Mais moi j'en fais vraiment sur des morceaux, ouais. sur plusieurs morceaux et tout.
Incroyable. Là, il y a plusieurs concerts qui arrivent dans quelques jours. Il y a le 22 novembre au club qui est à la 14 rue de la Pivoleuse à Palaiso. Vous jouez avec, je sais pas si elle est en première partie ou si elle joue avec vous, Lola Aqua.
C'est une première partie. Ouais.
D'accord. Qui est une amie à vous également, je crois que vous l'avez posté hier sur Instagram.
Ça a été proposé par la salle.
Ah
non, c'est pas la même personne. Elle a été proposée.
C'est très proche. Mais
elle a été proposée par la salle.
D'accord. Et ce concert est en entrée libre, on le précise. C'est-à-dire, c'est un prix libre, j'ai vu. Ça veut dire quoi exactement?
Bah, je crois qu'ils avaient dit que de base, ils attendaient un prix, je crois que c'était 5 euros, mais que c'était.
Les gens aimaient ce qu'ils veulent, quoi.
Ok, trop. Et après, il y a un autre concert le 3 décembre au Castel à Paris. Alors, comment on réserve celui-là?
Ah, bah, alors là, en fait, c'est un club privé. Donc, du coup, on va demander aux gens qui veulent venir, ils peuvent nous DM pour nous demander des invitations. Et puis, nous-mêmes, on a proposé aussi à quelques personnes. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez venir, n'hésitez pas à nous DM.
Voilà.
Et on vous enverra des invitations.
On vous enverra
c'est
des
quel
invitations.
Jour le 3 décembre?
C'est un mercredi.
Ouais.
Ok, mais je note alors. Et quel est votre meilleur souvenir de scène, justement, en lien avec ces concerts qui arrivent? Est-ce que vous avez un concert qui vous a particulièrement touché, ému? Une date que vous vous rappelez?
Eh bien, il y a une date qui était hyper, hyper sympa et qu'on a vraiment adoré. On a fait une première partie à l'Olympia l'année dernière. C'était vraiment hyper bien parce qu'il y avait beaucoup de monde et les gens ont vraiment kiffé. Et même on a eu des problèmes techniques, etc. Et pourtant, ça a pas du tout gâché le concert. Au contraire, les gens se sont sentis beaucoup plus proches de nous et on a pu beaucoup plus se reparler. Et même, il y avait des pistes de batterie qui marchaient pas, etc. Bah, les gens, on leur a fait taper des mains beaucoup plus pour remplacer la batterie. Non, franchement, c'était un très bon moment. Mais en fait, ça passe tellement vite. Voilà, parce que du coup, c'était une première partie, c'était 30 minutes. Et c'est bizarre des fois de se dire que les meilleurs moments comme ça, c'est hyper court et ça commence déjà à être un peu lointain.
Mais non, c'est trop bien parce que nous aussi, à l'instant, on a un souci technique et on est ensemble dans la galère. Et c'est un peu votre musique qui résume un peu ça aussi. La vie est une galère, mais on est tous ensemble c'est là-dedans et ça va aller. Pardon, vous voulez continuer?
Non, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est en réalité, j'ai l'impression que les meilleurs moments, c'est aussi quand on annonce aux gens ou qu'on apprend qu'on va faire ce genre de date. C'est-à-dire que moi, je me souviens que cette date, on a fait passer en fait un petit concours que du coup, les Pachas, c'est celle qui organisait, qui faisait son spectacle à l'Olympia. Elle organisait en fait un talent show. Et du coup, on est passé dessus. Et juste d'apprendre en fait la nouvelle, j'adore. Et aussi de le dire en fait à sa famille, à ses proches, dire à ses amis et tout, ça c'est trop bien.
Ouais, l'Olympia, c'est énorme, c'est combien de places en plus? C'est
2000.
2000. Ouais. Est-ce que c'est mieux de jouer dans une salle qui est plus petite? Parce que l'émotion se diffuse plus, ou devant une salle avec autant de monde, c'est plus fort?
C'est plus impressionnant quand tu joues devant une salle, il y a vraiment beaucoup de gens, genre 2000 personnes quand même.
En fait, ça dépend le public. Là, c'était 2000 personnes qui étaient à fond, mais si t'es devant 2000 personnes qui n'aiment pas ce que tu fais, franchement, je préfère être devant 30 personnes qui kiffent et qui tapent des mains et tout, plutôt que ça. Mais enfin, ça dépend vraiment du public. Là, en fait, le public qui nous ressemblait, c'était des meufs qui avaient notre âge, etc. Donc ça collait, quoi. Mm.
Mais il y a des dates très sympas qu'on a fait où il y avait beaucoup moins de gens et c'était trop cool parce qu'il y a une bonne énergie, quoi.
Et vous êtes deux sœurs jumelles, vous travaillez ensemble. Est-ce que c'est casse-gueule? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a un peu de mélange de tout ça?
Ah, c'est bourbier. Oh.
C'est compliqué
parce que on doit tout le temps un peu.
Parce que le dimanche, vous faites le repas de famille ensemble et le lundi, on travaille ensemble.
C'est ça, mais le dimanche, on travaille aussi ensemble le dimanche. Ouais, on sépare pas trop les trucs. En fait, le truc, c'est que quand on est artiste, dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est difficile de séparer son travail.
Mais c'est une passion.
De qui on est, de ce qu'on fait. En fait, on a un peu tout le temps dans le truc. Donc, du coup, en fait, tout le temps, on parle musique. Vraiment, je pense que si on devait se donner une journée, on se dit, allez, on parle pas de musique. Franchement, de quoi on va parler, Lisa, à part de séries?
De Disney Channel.
De
Disney Channel. Est-ce que vos voix se ressemblent et se complètent? Est-ce que c'était un travail de le faire ou ça a toujours été plus ou moins naturel?
Je dirais que on a des voix assez similaires quand même parce qu'on est sœurs jumelles. Mais on n'a pas exactement la même manière de chanter, ce qui fait que c'est complémentaire. Après, des fois, on reçoit des retours et ils disent, ah, il y a qu'une seule voix, c'est marrant. Enfin, non, on est deux. Des fois, il y en a, ils captent pas. Mais non, on a des voix quand même assez similaires.
En fait, c'est aussi qu'on a travaillé ça ensemble. En fait, on a toujours pris des cours de chant ensemble. Donc, du coup, on a travaillé pour, par exemple, moi, je fasse toujours des doubles voix ou des harmonies sur les voix de Lisa. Donc, comme ça, on a travaillé un peu le fait de chanter ensemble. En fait, on a appris en même temps à chanter et à chanter en faisant des harmonies toutes les deux.
Ouais, du coup, on se complète tout le temps.
C'est magnifique. Vous chantez un peu le chaos de la vie adulte. Est-ce que vous pensez qu'un jour ça va être mieux, ça va être limite parfait? Et qu'est-ce que vous chanterez à ce moment-là?
Eh bien, déjà, on chante des chansons qui parlent de cette vie parfaite. Par exemple, il y en a une qui va sortir, bon, pas tout de suite, mais qui dit, ça s'appelle Like in the Movies. Du coup, c'est un peu comme dans les films, quand est-ce que ça arrive, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on chantera? Le problème, c'est qu'en fait, si tout va bien, qu'est-ce qu'on va chanter? C'est ça le problème.
On se la pose aussi la question.
Parce que là, par exemple, j'ai eu plein de peines de cœur et j'ai pu écrire des chansons et des chansons. Il y en a plusieurs. On a une, c'est Petit Biscuit, qui va bientôt sortir d'ailleurs dans un mois ou un mois et demi. Il y en a une autre qui s'appelle Carboy qui va sortir, mais en fait maintenant je suis en couple, et qu'est-ce que je vais écrire?
On ne sait pas, mais en tout cas, en parlant de peines de cœur et de chansons, vous allez nous interpréter Forget P tout de suite. Vous êtes prêtes, vous pouvez prendre vos instruments,
parti, yes, ça marche,
vos guitares et on va tous écouter ce nouveau single qui parle, on le rappelle, du SMS qui est arrivé quelques jours plus tard pour vous donner rendez-vous le soir. Forget P, je rappelle, vous avez un concert le 22 novembre au club à Palaiso. Entrée libre à 20h et le 3 décembre au Castel à Paris. Amy et Lisa avec Forget P tout de suite sur Radio Campus Paris. C'est quand vous voulez.
Ça marche. Ah, c'est bon. Ok.
Merci beaucoup.
Merci à vous, merci à vous deux.
Merci beaucoup pour cet instant musical. Tout de suite, la chronique libre de Abel.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Salut Rania, salut Hugo, salut Amy, Elisa et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur votre chronique préférée. Et aujourd'hui, je voulais parler d'une œuvre passionnante, vaste, merveilleuse, éclectique. Oui, je suis fier d'utiliser ce mot et je le dis en toute objectivité, mesdames et messieurs, roulement de tambour, le Seigneur des Anneaux. Je suis un de ces fans léchés de l'univers de Tolkien. D'abord, je vais vous raconter la genèse de cet amour. Tout commence à 3 ans et demi lorsque mon père m'a montré la dramatique bataille du gouffre de Helm. Oui, 3 ans et demi. Ma mère n'a pas beaucoup apprécié. Mon père n'avait pas saisi que ce n'était pas l'idéal pour un jeune enfant. Vous pensez que ça m'a traumatisé ? Pas du tout, j'ai adoré. Et après les horribles trolls, j'ai pu regarder très jeune tous les différents films d'horreur de gore et tout le tralala. Mais ça m'a surtout transformé en psychopathe. Depuis, j'ai regardé la trilogie 2 fois par an. Tous mes jeux d'enfance étaient orientés sur le Seigneur des Anneaux. Mon chien se transformait en loup sanguinaire et le mur du jardin était une muraille à franchir. Mon père m'a fabriqué une hache de nain en bois et je l'emmenais dans mes draps pour dormir. Et comme tous mes congénères, on détestait les douches. Le temps passant, j'ai laissé mes jeux de côté et j'ai simplement appris à apprécier l'œuvre cinématographique comme un objet de réconfort avant de me plonger dans les romans. Belle aventure pour devenir ce connard. Alors oui, mais dans le livre, ce qui m'a cependant donné une grande supériorité dans mes connaissances geeks. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, car il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur cet article. Tolkien comme auteur de chevet des extrêmes droites. Comment, quis-je, serais-je donc un immonde fasciste depuis mon enfance, adorateur de magie noire et de créatures maléfiques? Devrais-je enlever le poster d'Aragorn au-dessus de mon lit et arrêter de l'embrasser avant de dormir? Jamais. Il est beaucoup trop sexy. Bon, prenons le sujet à bras-le-corps. Évidemment qu'ils adorent. Ça résume tout simplement pour eux. Les gentils contre les méchants, la lumière contre l'ombre, la civilisation contre la sauvagerie. Un mal qui ronge les sociétés et qu'il faut éradiquer sous peine de disparaître. Des individus aux intentions malfaisantes et des chefs machiavéliques tirant les ficelles dans l'ombre. Le rêve du fascisme, c'est le manichéisme le plus absolu. Le simplisme d'un ennemi unique à abattre. Penser que la société et le monde est nuancé, jamais. Donc le Seigneur des Anneaux, c'est le combat de la civilisation, des valeurs, de la tradition, une ode médiévale et guerrière. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un gros con. Parce que Tolkien n'a rien d'un fasciste et ses romans encore moins. Alors non pas que ce soit le plus grand des progressistes, mais s'il y a une certitude, c'est son aversion pour les régimes autoritaires, bien présente dans son univers. Oui, les hobbits sont des hippies fumeurs de pipes, vivant en communauté autonome. Le roi n'est qu'un vagabond qui s'affirme par ses actes et est finalement choisi par son peuple. Et peut-être même que Tolkien était le fondateur d'Europe Écologie Les Verts. Des arbres qui parlent, des elfes qui vivent dans la forêt, des eaux puissantes et purificatrices de la roche capricieuse. Il y a clairement une éloge du monde vivant, un respect de l'environnement et surtout une fascination pour la beauté naturelle. Bien loin du récit néo-fasciste, au point que les hippies Greenpeace et les mouvements anti-guerre Vietnam s'en sont également inspirés. Et ils étaient plus proches de Tolkien que Trump ou Mélanie. Tout va bien, je peux lustrer mes DVD version longue et dire aux autres cons que quand on cite une œuvre, c'est mieux de la lire avant. Et du coup, j'ouvre une canote pour le set Lego de la Tour Sauron, 5471 pièces et jusqu'à 16 heures de construction. Le lien en commentaire, bisous et merci à tous, bonne soirée.
Merci beaucoup Abel, merci beaucoup à tous, Abel, Hugo, Camille, Marine, Clotilde, pour cette matinale d'aujourd'hui. Merci aux artistes qui étaient présents avec nous, merci à David à la Réal et bonne soirée.
Bonne soirée à toi, merci.
Bonne soirée, ciao.